des voix enfantines quelque part, mais en effet, il n'y avait ni enfants ni adolescents en vue, pas davantage d'adultes.
L'épiscopat croit que s'embrasser mène au péché, chuchota Juan Diego. Votre église est contre la contraception, contre l'avortement, contre le mariage des homosexuels. Votre église voudrait interdire aux gens de s'embrasser, Clark.
Tout à coup, un essaim de petits enfants les dépassa en courant, cheveux encore mouillés, tongs claquant sur le sol.
Quand les petits seront au lit,
reprit Clark French. Il concevait la conversation comme une joute, un sport de combat. Il aurait fait un missionnaire infatigable. Il y avait du jésuite en lui. Le côté « je sais tout », l'importance accordée à l'étude, le prosélytisme. La seule pensée de son propre martyr devait l'exalter. Il souffrirait agréablement s'il arrivait à prouver quelque chose d'impossible. Il subirait toutes les avanies avec le sourire. Il s'y accomplirait.
« Vous allez bien ?» demanda-t-il à Juan Diego. « Je suis un peu essoufflé, c'est tout. » Je n'ai pas l'habitude de marcher si vite avec ma patte folle, ni de parler en marchant.
Ils ralentirent pour descendre les marches et se dirigèrent vers le hall d'entrée de l'hôtel qui donnait accès à la salle à manger. Le restaurant avait été installé sous un auvent avec un store de bambou qu'on baissait pour protéger les tables en cas d'intempéries. Largement ouverte sur les palmiers et la vue sur la mer, cette salle à manger évoquait une vaste galerie. Des chapeaux de cotillon étaient disposés sur toutes les tables. La belle famille de Clark était une vraie smala. Josefa avait une parentèle de 30 ou 40 personnes, des enfants et des jeunes gens pour plus de la moitié.
« Vous n'êtes pas tenu de vous rappeler le nom de chacun, » lui souffla Clark à l'oreille. « Cette mystérieuse pensionnaire, » dit soudain Juan Diego, « il faut la mettre à côté de moi. »«
À côté de vous ?»
« Bien sûr. Vous l'avez tous prise en grippe. Moi, au moins, je suis neutre. »«
Je ne l'ai pas prise en grippe. Personne ne la connaît. Elle s'impose à une famille. »«
je sais, Clark. Il faut la mettre à côté de moi. »«
Nous sommes des étrangers, l'un comme l'autre, alors que vous, vous vous connaissez tous. »« Je me disais qu'on devrait l'installer à l'une des tables des enfants, celle des plus turbulents, par exemple. »«
Tu vois bien que tu l'as prise en grippe. »
« Je plaisante. Ou alors à une table d'adolescents, celle des plus boudeurs. »
Myriam serait bien capable de corrompre les adolescents, se dit Juan Diego.
« Oncle Clark !»
cria un petit gamin au visage tout rond en se pendant à la main de celui-ci.
« Oui, Pedro, qu'est-ce qu'il y a ?»«
C'est le gros gecko derrière le tableau dans la bibliothèque. Il est sorti. »«
Pas le gecko géant, au moins. »«
Pas celui-là ?»
demanda Clark en feignant l'inquiétude.
« Si, le géant !»
Eh bien, écoute, Pedro. Le hasard a voulu que ce monsieur sache tout sur les geckos. C'est un expert.
Non seulement il aime les geckos, mais il lui manque, expliqua Clark.
Je te présente Monsieur Guerrero, ajouta-t-il en s'éclipsant.
Juan Diego resta seul avec l'enfant qui le prit aussitôt par la main.
Vous les aimez, les geckos?
Et sans laisser à Juan Diego le temps de répondre, il ajouta.
Pourquoi il vous manque, mister?
Bah, c'est-à-dire que... Juan Diego s'interrompit pour gagner du temps. Quand il reprit la direction de l'escalier qui menait à la bibliothèque, sa claudication attira une douzaine d'enfants autour de lui. Il pouvait avoir 5-6 ans, comme Pedro lui-même.
« Il sait tout sur les geckos !»
dit Pedro aux autres.
« Il les aime et il lui manque. Pourquoi, mister ?»«
Qu'est-ce que vous vous êtes fait aux pieds ?» demanda une petite fille avec des nattes.
« Quand j'étais gosse, je travaillais sur une décharge. » J'habitais une baraque près de Oaxaca, au Mexique. Notre baraque, à ma sœur et moi, n'avait qu'une porte. Tous les matins, quand je me levais, il y avait un gecko sur cette porte moustiquaire. Il était tellement rapide qu'il disparaissait en un clin d'œil.
Il claqua dans ses mains pour souligner son propos.
Il boitait plus bas quand il lui fallait monter des marches. Un matin, un pick-up m'est passé sur le pied droit en reculant. Le rétroviseur latéral était cassé du côté conducteur, c'était pas sa faute. C'était un brave homme. Il est mort aujourd'hui. Mais il me manque. La décharge aussi me manque.
Avec les geckos, dit Juan Diego aux enfants.
Il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait désormais des adultes dans le cortège qui le suivait à la bibliothèque. Clark French était du nombre. Et au fond, c'était son histoire qu'ils étaient en train de suivre.
Cet homme à la patte folle
Avait-il bien dit que la décharge lui manquait? Se demandaient les gosses les uns aux autres.
Si j'avais grandi au Basurero, je crois pas qu'il me manquerait, dit la petite Onat à Pedro.
Peut-être que c'est sa sœur qui lui manque.
Moi, ça m'étonne pas que les geckos lui manquent, répondit Pedro.
Les geckos sont des animaux essentiellement nocturnes. Ils sont plus actifs la nuit parce qu'il y a plus d'insectes. Or, ils se nourrissent d'insectes. Ils ne peuvent pas vous faire de mal.
Où elle est, votre sœur? Demanda la fillette.
Elle est morte, répondit Juan Diego. Il ne voulait pas lui donner de cauchemar en lui racontant comment elle était morte.
Regardez!
S'écria Pedro en désignant le grand tableau accroché au-dessus d'un canapé aux allures confortables dans la bibliothèque. Le gecko était si énorme qu'on le voyait aussi bien que le tableau, à cette distance. Il s'accrochait au mur près du cadre, et à l'approche de Juan Diego et des enfants, il grimpa plus haut. Il attendit en les tenant à l'œil à mi-hauteur entre le plafond et le tableau. Il avait la taille d'un chat domestique.
L'homme dont vous voyez le portrait est un saint, expliqua Juan Diego aux enfants. Il a étudié à la Sorbonne, il a été soldat aussi. C'était un soldat basque, il a été blessé.
Blessé comment? Demanda Pedro.
Par un boulet de canon.
Et ça vous tue pas, un boulet de canon?
Ah, il faut croire que ça ne tue pas un futur saint.
Comment il s'appelait? C'était qui, ce saint?
S'enquit la petite fille Onat qui bourdonnait de questions.
Votre oncle Clark sait qui il était, assura Juan Diego.
Il sentait que Clark le regardait et l'écoutait en étudiant passionné qu'il était resté. Il avait l'air d'un gaillard qui survivrait à un boulet de canon.
Oncle Clark!
Crièrent les enfants.
Comment il s'appelait, le saint?
Répéta la petite fille Onat, et Juan Diego entendit Clark répondre.
Saint Ignace de Loyola.
Le gecko géant était aussi vif que les petits. Soit que Clark ait parlé avec trop d'aplomb, soit qu'il ait parlé trop fort, l'animal s'aplatit et parvint à se glisser derrière le tableau, un prodige. Il avait légèrement déporté le cadre, mais cela mis à part, on n'y voyait que du feu. Saint Ignace lui-même ne s'était aperçu de rien. Il faut dire qu'il ne regardait pas les humains, enfants ou adultes. Bien qu'il ait vu beaucoup de portraits de lui à l'église de la Compagnie de Jésus, aux Enfants Perdus et ailleurs à Oaxaca, sans oublier Mexico, Juan Diego ne se rappelait pas que le saint chauve et barbu lui eût une seule fois rendu son regard. Il avait les yeux tournés vers le haut. Il regardait le ciel dans une imploration permanente.
« Le dîner est servi !»
lança une voix d'adulte.
« Merci pour l'histoire, mister !»
dit Pedro à Juan Diego.
« Dommage pour toutes les choses qui vous manquent. »
Pedro et la petite Onat voulurent tous deux lui donner la main au moment de descendre l'escalier, mais il était trop étroit pour qu'un infirme l'emprunte sans s'accrocher à la rampe. Clark commenta avec enthousiasme.
« J'adore vous écouter raconter. »
« Tu n'aimerais pas forcément m'écouter raconter mon histoire de Vierge Marie, » pensa Juan Diego. Mais il se sentait bizarrement fatigué, surtout pour quelqu'un qui avait dormi dans l'avion et somnolé dans la voiture. Le petit Pedro avait raison de dire dommage pour toutes les choses qui lui manquaient. Et, à y penser, elle lui manquait encore davantage, alors même qu'il n'avait fait qu'effleurer sa vie à la décharge auprès des enfants. Le plan de table avait été pensé avec le plus grand soin. On avait placé les enfants vers l'extérieur de la salle, dont les adultes occupaient le centre. Josefa, la femme de Clark, prendrait place à la droite de Juan Diego, qui vit que le siège à sa gauche était vide. Clark s'était assis en face de son professeur un peu de biais. Juan Diego découvrit sans étonnement que la table était essentiellement composée de femmes d'un certain âge à la présence desquelles il s'attendait. Elles lui souriaient d'un air entendu, comme des lectrices qui se figurent que leur odeur de chevet n'a pas de secret pour elles. Toutes avaient le sourire, sauf une. Vous savez ce qu'on dit des gens qui ressemblent à leur animal favori? Avant même que Clark ait réclamé le silence en faisant tinter sa cuillère contre son verre, avant même qu'il ait achevé la présentation volubile de son ancien professeur à sa belle famille, Juan Diego avait repéré Tante Carmen. Car personne d'autre n'évoquait aussi bien, par les couleurs vives de sa parure et par ses dents pointues, une murène vorace. Et dans la lumière flatteuse qui baignait la table, on aurait pu prendre ses bajoues pour des ouïes frémissantes. Telle une anguille, tant Carmen diffusait une aura de distance et de méfiance.